BFM Business, tout pour investir. Étienne Brasse.
C'est parti pour Tout pour investir. Il est 11h pile. On est en direct ensemble jusqu'à 12h. 11h, 12h, Tout pour investir. Vous connaissez le rendez-vous chaque jour sur BFM Business du lundi au vendredi. Il sera bien sûr question d'investissement, comme chaque matin dans cette émission. Le côté, le non-côté, mais aussi le vin auront leur place dans la prochaine heure. Dans quelques minutes, avec Laurent Grassin de Boursorama et Karen Lormedjener de Swave, nous parlerons de la BCE qui se réunira demain. Quel impact pour votre argent, en tout cas que ce soit sur le livret A, mais aussi sur le PEL des Français décollecte. On a une décollecte qui est très claire hein, ces dernières semaines. Les Français cherchent du rendement, que ce soit sur les comptes à terme, sur la bourse, sur l'assurance vie, bref, sur différents supports, dont notamment les SCPI. Ça tombe bien, nous parlerons des SCPI tout à l'heure à 11h30 avec les équipes de Remake Asset Management. Un focus particulier sur les SCPI étrangères. Quelle est la particularité des SCPI étrangères avec une fiscalité certes avantageuse, mais à qui s'adresse ce produit? Élément de réponse donc dans une demi-heure. Il sera question également de philanthropie dans cette émission avec les équipes de Neuflis OBC qui vous diront plutôt qu'il est plus que jamais. Il est plus que jamais temps de faire des donations. Il ne faut pas attendre pour faire des donations. C'est ce que vous dira Pauline Soulas dans la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans le dernier quart d'heure, il sera question de vin de Bordeaux, plus précisément, avec Angélique de Lynxin de Ideal Wine. Acheter du vin en primeur. Vous savez, 6 à 8 mois après les vendanges, les châteaux ouvrent leurs portes pour déguster le vin brut. Le vin reste ensuite pendant 12 à 18 mois pour finir de vieillir au château. Et puis ensuite, vous allez recevoir votre bouteille d'ici 2 ans. Un pari qui peut être gagnant. Forcément, vous payez votre bouteille moins cher, mais quels sont les pièges à éviter? Angélique de Lynxin de Ideal Wine vous donnera ses conseils. Ça sera dans le dernier quart d'heure à partir de 11h45. Juste avant, à 11h02, c'est le tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Le tableau de bord, comme chaque jour pour débuter cette émission Tout pour investir, avec un petit coup d'œil sur les marchés financiers et un CAC 40 qui est en baisse en ce mercredi 26-29 avril, puisqu'on cède 0,4% sur le CAC 40 à 8056 points, avec beaucoup de publications d'entreprises à arbitrer ce matin, avec le marché qui achète du Airbus, plus 1,8%. Les résultats étaient légèrement inférieurs aux attentes hier soir, mais le marché préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'autant plus que le groupe a confirmé ses objectifs pour cette année. Certes, il y a eu des décalages de livraison sur les trois premiers mois de l'année, mais Airbus se veut confiant. Le titre s'échange ce matin à 169,22€, suivi de Total Energy qui gagne 0,6% à 78,77€, un titre qui est proche de ses records historiques, avec ce matin des résultats en très forte hausse qui ont été publiés. Résultat net qui a été multiplié par 2 entre le quatrième trimestre et le premier trimestre, plus 50% par rapport à l'an dernier, avec forcément un cours du pétrole qui était au-delà des $100 au mois de mars. Ça a dopé ce profit qui se rapproche des 6 milliards de dollars au premier trimestre. Autre secteur à suivre ce matin, le secteur des entreprises de services numériques. Vous voyez du Capgemini dans le vert, aussi et surtout Soprasteria qui gagne 11% dans le SBF 120 après la publication de son chiffre d'affaires. Soprasteria qui voit une reprise de la part de ses clients. Ça permet à ce titre de reprendre de la hauteur. Tendance à confirmer demain avec les résultats de Capgemini. Vous aurez également Société Générale qui va publier ses résultats demain, BNP Paribas ou encore Air France. Bref, la fin de semaine s'annonce bien sûr très agitée, en tout cas chargée sur les marchés, puisque ce soir il y aura donc la Fed, la Banque Centrale Américaine, mais également les GAFAM qui vont publier leurs résultats ce soir, mais également demain soir.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage pour débuter cette émission avec en plateau Laurent Grassin. Bonjour Laurent.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes directeur des médias Boursorama en compagnie de Karen Laure Mérenge.
Bonjour Étienne.
Mérenge. Voilà. Bon, je me disais, je suis pas sûr du nom, j'ai bien fait de confirmer avec vous. Vous êtes la fondatrice de Swave. Swave qui est une plateforme qui propose notamment des comptes à terme. Et ça tombe bien puisque on a pas mal d'actualités monétaires en ce moment avec, je le disais en préambule, la Fed ce soir, mais aussi la BCE demain. Que peut faire la BCE face à cette inflation ou en tout cas ce choc de prix à court terme, Laurent Grassin?
Il est urgent d'attendre. Je pense que ça va être le message, un petit peu le tempo de toutes les banques centrales, c'est que pour le moment, on observe ce qui se passe. Il n'y a pas de signe véritablement alarmant à date, encore une fois, je précise, sur l'économie, notamment en Europe. On le sait, la mission essentielle de la BCE, ça reste l'inflation. Elle est moins proactive que la Fed ne peut l'être. En tout cas, pour le moment, on est à 2% au niveau européen. On est entre 3,5 et 3,75 aux États-Unis. Et tout le monde s'attend à ce que ça reste identique. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, entre la volonté de justement de pouvoir contenir l'inflation, mais surtout de préserver aussi la croissance et l'emploi, voilà, on est sur cette ligne de crête. Pour le moment, elle tient. Ça va être intéressant de voir comment la situation économique évolue dans les mois prochains. Je pense que ce sera intéressant, encore une fois, d'avoir les données de croissance sur le deuxième trimestre qui vont, à mon sens, commencer à tenir compte de ce qui se passe au Moyen-Orient. Pour le moment, on tient. On tient la pause et on regarde les données.
Une pause qui devrait se confirmer demain de la part de la BCE, Karen Lohr, avec peut-être de futures hausses de taux dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'anticipe le marché obligataire.
En effet, pour l'instant, le consensus a l'air de pricer, comme on dit, que demain, il n'y aura pas de hausse de taux et que finalement, la crainte inflationniste n'est pas suffisamment importante pour que Christine Lagarde augmente de 2% vers 2,25%. Pour autant, le marché a l'air d'anticiper deux hausses de taux jusqu'à la fin de l'année en 2026. Mais je pense qu'on a le temps largement de voir
comment ça va évoluer
encore différemment ces éléments. Et comme disait Laurent également, en théorie, le mandat de la Fed c'est d'uniquement maintenir la stabilité des prix et de veiller à la non-inflation entre guillemets ou à une inflation raisonnable. Mais en pratique, elle veille aussi évidemment au plein emploi, même si le mandat de la BCE n'est pas totalement dual comme elle l'est à la Fed. Et le fait qu'on soit sur une sorte de stagflation en perspective avec des perspectives de croissance plus faibles fait quand même qu'ils vont certainement finir par monter les taux à un moment.
En tout cas, les Français, depuis le début de l'année, on le voit bien, prennent un petit peu leur argent en main. C'est vrai que le livret A a vu son rendement baisser en début d'année. Il y a également le PEL qui est un petit peu en fin de vie, en tout cas certains PEL. Et donc forcément, il y a de la décollecte et des Français qui placent cet argent sur d'autres actifs.
Ouais, tout à fait. On a entendu beaucoup parler du PEL récemment. Pourquoi ? Parce que c'est la toute première vague de PEL à échéance en 2026. Donc, il faut savoir qu'en 2011, les PEL qui historiquement avaient toujours eu une durée de vie illimitée, la régulation a changé en 2011 et on a considéré que les PEL allaient maintenant durer 15 ans. Donc, en 2026, on a une première vague de PEL qui arrive à échéance. Et la question qui se pose un petit peu en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de renouveler ces PEL ? Est-ce qu'on a envie de les allouer sur d'autres placements ? Et peut-être qu'en quelques mots, on peut expliquer pourquoi le PEL finalement n'est plus du tout un placement attractif comme il l'était auparavant. Donc déjà, d'un point de vue de flexibilité, c'est un placement qui est extrêmement inflexible. Il faut laisser son argent investi pendant 4 ans. Il faut vraiment faire des versements chaque année de 540 €, auquel cas, si on ne les fait pas, le placement est fermé. On a la possibilité d'en avoir que un avec un plafond de 62 000 €, etc. Donc c'est un placement très inflexible. C'est un placement qui a son rendement qui est défini par l'État français. Donc en fait, chaque année, l'État va définir un rendement qui peut être pas du tout attractif. Et l'année dernière, c'était 1,75%. Cette année, c'est 2%. Donc c'est quand même très en dessous de ce qu'on peut avoir dans le marché. Et enfin, la fiscalité du PEL, qui était très attractive, puisqu'au départ, il était complètement exonéré de fiscalité et de prélèvements sociaux, ne l'est plus du tout, puisque je vous passe les dégradations de fiscalité successives, mais aujourd'hui, le PEL est parfaitement fiscalisé, aussi bien en termes d'impôts sur le revenu que de prélèvements sociaux.
C'est flat tax, hein, c'est ça ?
C'est une flat tax à 31,4%. Et en parallèle de ça, en fait, l'intérêt premier du PEL, qui était d'ouvrir du droit un crédit en fait, immobilier, d'où son nom, le plan d'épargne logement, n'est jamais utilisé parce qu'en fait, les crédits immobiliers sont beaucoup plus attractifs auprès des banques traditionnelles. Ils sont beaucoup plus compétitifs qu'avec le PEL. Donc, en gros, ce placement n'a plus aucun intérêt et il décollecte massivement.
Sauf pour les vieux PEL quand même, parce que c'est un taux qui est fixe.
Exactement. Ceux qui font de la résistance.
Sauf pour les vieux PEL, parce qu'il y a une spécificité, comme on disait, c'est que le taux du PEL est figé à sa souscription pendant toute la durée du placement. Donc, tous les PEL qui ont été ouverts dans les années 80 et 90 ont des taux hyper intéressants. Moi, mes parents m'ont ouvert un PEL à ma naissance à 4,62% en 91 et ce taux est garanti jusqu'à la fin de ma vie. Donc, voilà, parce qu'il n'y a pas d'unité de durée. Donc, ces PEL-là sont effectivement hyper intéressants. Il ne faut jamais les fermer. Comme ils coûtent très cher aux banques, la banque essaye par tous les moyens de les faire fermer, mais il ne faut pas les fermer. Mais tous les PEL depuis les années 2000 sont plus du tout intéressants en réalité. Et on a d'autres alternatives, comme vous le disiez, potentiellement sur des comptes à terme, qui vont présenter toutes les mêmes caractéristiques avantageuses. Donc, un capital garanti à 100% et un rangement garanti à 100% et figé dès la souscription. Donc, finalement, ce qui nous a attirés auprès du PEL, mais qui ne vont pas présenter les désavantages qu'on connaît du PEL, c'est-à-dire une durée inflexible de 4 ans, une capacité à en avoir un seul, un rendement qui est fixé par l'État, etc. Puisque sur un compte à terme, on va pouvoir choisir librement sa durée de 6 mois, de 12 mois, etc. Et aujourd'hui, le marché fixe le taux du PEL à 2%. Mais il faut savoir, sur des comptes à terme, sur une durée de 4 ans minimale, mais sur du compte à terme, on peut avoir du 2% à 6 mois, on peut avoir du 3% à 4 ans. Donc c'est vraiment le rendement et l'attractivité du PEL n'est plus à l'ordre du jour, quoi.
Et après, ça, c'est figé, mais c'est disponible à tout moment. Hein. L'argent du compte à terme, on peut le retirer. On n'est pas obligé de rester 2 ans ou 3 ans sur la durée définie.
Alors, il vaut mieux quand même aller jusqu'à l'échéance du placement parce qu'on profite pleinement des intérêts. Mais si on a toutefois besoin de récupérer ses fonds avant l'échéance, eh bien, on va pouvoir le retirer avec un préavis de 32 jours. Donc, c'est relativement liquide, mais pas parfaitement liquide.
En tout cas, ça montre bien qu'il y a des opportunités. Aujourd'hui, Laurent Grassin, pour trouver du rendement, que ce soit sur les comptes à terme... Voilà, sur les fonds euros, enfin, il y a plein d'opportunités. Les opportunités sont revenues. On n'est plus dans le même scénario qu'il y a 4-5 ans.
Il y a plusieurs choses. Effectivement, le PEL, c'est quand même toute l'histoire de France des produits d'épargne. C'est-à-dire qu'on vous propose au départ un produit qui est assez attrayant, effectivement, où il y a des conditions sur le rendement, sur la capacité d'avoir un prêt qui sont vraiment bien. Et puis, comme le PEL était un trop bon produit d'épargne, les gens l'utilisaient pas assez pour le logement, donc on a dit on va le recentrer sur le logement tellement qu'on en a dégradé toutes les qualités et on se retrouve aujourd'hui avec comme ce que tu disais finalement un produit qui a plus beaucoup d'intérêt et en plus ça reste malgré tout le deuxième produit d'épargne réglementé derrière le livret A. Je crois qu'il y a à peu près 200 milliards d'euros d'encours dessus en juin 2025. Alors oui, il y a aujourd'hui les comptes à terme, il y a les fonds euros qu'on retrouvait effectivement de l'attrait. Et moi, ce qui m'intéresse, je suis désolé Étienne, je vais nous ramener sur la bourse quand même. On avait les chiffres d'Amundi ce matin, vous les avez regardés, et qu'est-ce que nous dit Amundi? C'est qu'il y a eu
collecte record,
32 milliards d'euros de collecte. Donc ça veut dire que malgré tout sur un premier trimestre qui était volatile, qui était compliqué, il y a quand même beaucoup d'épargnants parce que il y a ça aussi qui sont allés chercher du risque, qui sont allés chercher du rendement, notamment via les ETF. C'est ce qui ressort de cette publication d'Amundi. Donc oui, il y a des possibilités sécurisées, si je puis dire. Et puis on voit que les épargnants ont moins peur aujourd'hui d'aller chercher du risque, ou en tout cas ont sans doute vu le moment qu'on est en train de vivre actuellement comme un bon point d'entrée sur les marchés.
En tout cas, la clé encore et toujours, Karen-Laure Mregen, ça reste la diversification. Hein, on le voit par rapport aux ETF, on parlera tout à l'heure des CPI. Enfin, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de la collecte sur quasiment toutes les classes d'actifs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si effectivement l'horizon en fait, de renouvellement de ces PEL qui arrivent à l'échéance dont on parlait, c'est à nouveau de rester investi pendant 15 ans, puisque là on parle de PEL qui ont été... c'est 15 ans toujours.
Ah,
en fait, au bout de 10 ans, on ne peut plus faire de versement.
Ah, c'est ça. Okay.
Mais on peut le maintenir jusqu'à 15 ans. Et si l'horizon à nouveau, c'est... si votre épargne, vous considérez qu'elle peut être mobilisée pendant 15 ans, effectivement, ça vaut le coup d'aller sur des marchés risqués, comme le disait Laurent, des ETF, etc. Mais pour autant, tout est une question d'horizon de temps, en fait. Et l'avantage aussi d'un PEL ou potentiellement d'un compte à terme, c'est d'aller sur des horizons beaucoup plus courts. Et donc beaucoup moins risqué. Parce que aller sur des ETF risqués sur le marché actions, ça suppose quand même d'avoir un horizon de temps qui le permet.
C'est donc, pas pour jouer.
Voilà.
Le truc,
c'est
le
pas pour faire des entrées-sorties et se prendre pour un super trader. En général, ça c'est plutôt à perte. Mais oui, donc à long terme, la diversification évidemment c'est porteur.
À suivre donc la BCE demain, la Fed ce soir, et puis les GAFAM qui vont également publier à partir de ce soir. Oui. Laurent Grassin. Beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, sur les fameux 600 milliards et plus qui avaient été annoncés au mois de février. Et puis quid également de OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui fait un petit peu l'actualité une nouvelle fois ces dernières heures sur est-ce qu'ils vont réussir à monétiser, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre leurs objectifs, etc.
C'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Effectivement, Étienne, il y a les trois introductions qui sont attendues d'ici la fin de l'année. On ne sait pas encore véritablement quand. Donc on a SpaceX, on a OpenAI, on a Anthropic. Et c'est intéressant de voir au-delà de l'histoire boursière, l'histoire qui s'écrit aussi entre tous ces hommes qui se connaissent tous, finalement, puisque le procès qui se tient en ce moment sur OpenAI, où, vous savez, Elon Musk est en train de poursuivre Sam Altman en expliquant qu'il a changé le statut de la société qui, au départ, était vue comme une fondation et puis qui s'est dotée d'une filiale à but commercial. Donc, il explique qu'il a été trompé. De l'autre, on sait que les dirigeants d'Anthropic sont des anciens d'OpenAI. Donc, tout ça est vraiment un tout petit univers. Et à côté de ça, vous l'avez dit, il y a la vraie question. celle qu'on se pose notamment sur OpenAI. Donc on parle quoi d'une valorisation théorique, je crois, aux alentours de 1500-1800 milliards pour SpaceX, et on est grosso modo, à grosse maille, pardon pour les chiffres, 1000 milliards pour Anthropic et 1000 milliards pour OpenAI. Et vous l'avez dit, d'ici 4 ans, c'est 600 milliards de dollars d'investissement qui sont prévus, notamment dans la construction de centres de données, toujours avec cet objectif de la puissance de calcul. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui circulent, qui sont censés être confidentiels, mais qui sont relayés par certains médias, et ça va être intéressant de voir, du point de vue de l'investisseur, finalement, au-delà de la hype, si je puis dire, qu'est-ce que ça rapporte. On voit déjà qu'il y a un certain nombre de virages qui ont été faits par OpenAI, qui est véritablement dans une course avec Anthropic, pour savoir qui va y aller en premier. On voit que Sora, le service de vidéos générées par IA, a été arrêté. On voit qu'il y a eu un recentrage, sur le monde de l'entreprise par rapport aux clients particuliers. On voit bien qu'aujourd'hui, chez OpenAI, l'utilisation par des particuliers, c'est pas là où on va véritablement faire de la rentabilité. Il y a aussi du recentrage vers de l'IA qui va faire du code. Donc, tout ça est en train de se structurer, et l'appétit du marché pour ces introductions va nous dire un petit peu... avec les résultats, bien sûr, des Magnificent Seven qui va tomber cette semaine, où on en est sur l'appétit sur l'IA. Je répète, très courte. Aujourd'hui, ce qui marche encore sur l'IA depuis le début de l'année, c'est vraiment les spécialistes de la puce dans tous les dimensions de cet écosystème.
Les semi-conducteurs. Avec un indice de Philadelphie, c'est devenu un peu l'indice de référence qui avait gagné
aujourd'hui,
45% là, entre fin mars et fin avril.
Aujourd'hui, les investisseurs semblent dire, écoutez, la fameuse vague 2, vous savez, Étienne, on passe de la vague 1, les hyperscalers, on fait la technique, et puis après, l'IA infuse comme ça, et puis va permettre à plein de sociétés de générer de la rentabilité. Bah, pour le moment, le marché dit, moi, je reste sur la phase 1, et même ceux qui produisent les puces, parce que eux, je sais qu'ils ont leur carnet de commandes qui sont bien remplis.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin pour débriefer ces actualités que l'on suivra bien sûr dans nos médias respectifs. Laurent Grassin, donc directeur des médias de Boursorama, et Karen-Laure Mregen pour Swave. 11h17, tout de suite on va rejoindre les équipes de Bourse Direct.
Tout pour investir, arbitrage.
L'arbitrage ce matin, c'est avec Valentin Nico, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin, merci de répondre à l'appel de BFM Business pour regarder un petit peu ce qui se passe là sur les marchés. Moins 0,6% pour le CAC 40, avant on le disait ce soir, les GAFA mais également la Fed.
Ouais, exact. Ouais, donc on a un scénario qui était un peu déjà tout fait. On a une énorme reprise où on atteint les 8350, 8400, et progressivement on est redescendu. On a consolidé vers autour des 8050 points au moment où les plus grandes décisions doivent arriver d'un point de vue monétaire et avec les résultats des GAFAM. Donc, comme d'habitude, les moments de décision arrivent sur les gros seuils techniques, et c'est des moments où il vaut mieux pas avoir des grosses décisions d'investissement. Il y a deux semaines, et on avait commencé des couvertures sur 8300 points, en pensant que voilà les 13% de reprise avaient été faits peut-être un peu vite, et on reste sur cette thématique de couverture et de prise de bénéfices. Et on patiente en attendant un signal d'un côté ou de l'autre, tout en restant dans cette éventualité, parce que on a des attentes sur un statu quo côté monétaire et éventuellement de bons résultats pour les GAFAM qui devraient pas être trop affectés par la dynamique actuelle, mais on reste quand même dans une position où on se dit que on garde l'éventualité négative. Et on attendra un signal positif pour rechercher des dossiers qu'on estime en retard. Mais pour l'instant, on garde le pied levé sans prendre de décision, bien évidemment.
Est-ce que néanmoins, il y a des actions peut-être à l'occasion de cette saison de résultats qui vous intéressent ou certaines classes d'actifs dans cet environnement incertain et en même temps dans un contexte où, comme vous l'avez souligné, on a des indices américains qui sont sur des plus hauts historiques. Le Nasdaq a quand même pris quasiment 20% l'espace de 3 semaines.
Oui, absolument. Donc nous, sur l'investissement, là, on reste plutôt sur le côté européen où on voit beaucoup plus de reprises potentielles. Et on pense que la moindre déception pourrait coûter bien plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Donc sur les dossiers qu'on suit, en estimant qu'éventuellement les résultats seraient bons, pour jouer une hausse de l'indice, on l'avait évoqué il y a deux semaines, on n'a pas trop changé. On a Hermès côté luxe et Airbus qu'on regarde très attentivement. Voilà, donc si on a un signal positif sur l'indice, et notamment qu'on repasse au-dessus des 8200 points, ce sera probablement le cas s'il y a une bonne nouvelle sur les résultats. Là, on renforcerait ces positions et on garde un œil sur ce qui a été très très sanctionné sur la côte, à savoir le logiciel et certains par exemple Dassault Systèmes. On regarde également Capgemini, qui sont des boîtes avec énormément de retard et où on pense que la valeur fondamentale commence un petit peu à se décrocher du cours actuel, et donc l'effet rattrapage peut être important. Donc on a ces dossiers en tête, et puis on attend surtout l'éventuelle bonne nouvelle pour pouvoir attaquer ces dossiers. Mais pour l'instant, on prend bien évidemment pas de décision, et on invite à la méfiance pour l'ensemble de nos clients.
Merci beaucoup Valentin Nicot, nous a accompagné ce matin depuis Bourse Direct. Vous êtes membre de la cellule Info d'Experts pour faire un point donc sur la séance du jour et nous partager un petit peu vos convictions depuis Bourse Direct. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. Comme promis, nous parlerons donc de la donation avec les équipes de Neuflize EBC, de SCPI, notamment des SCPI étrangères. Fiscalité avantageuse, oui, mais pour quel profil? Élément de réponse également dans la deuxième partie d'émission avec les équipes de Remake Asset Management. Et puis en fin d'émission, le marché du vin avec donc le marché du primeur qui s'ouvre, notamment dans la région de Bordeaux. Angélique de Lynxin vous donnera ses clés pour bien investir, sachant que c'est un investissement plaisir, bien sûr, le vin. On voit tout cela dans la deuxième partie d'émission. A tout de suite.
Tout pour investir. La boîte à outils.
La boîte à outils ce matin avec Pauline Soulas. Bonjour. Merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes ingénieure patrimoniale et directrice générale déléguée de Feel Good Foundation by Neuflize OBC. Avec vous, on va parler de la philanthropie, comment transmettre son patrimoine, comment le faire avec l'exemple, par exemple, d'une fondation. Pourquoi pas donner de son vivant? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Il faut donner de son vivant et pourquoi pas le donner à une fondation via notamment du cash, mais aussi et surtout des titres. Prenons par exemple l'exemple aujourd'hui d'une personne qui a des titres, des actions sur un compte titre. Bien, vous nous dites, on peut les donner de son vivant.
Voilà, exactement. On peut les donner de son vivant. Et l'idée, en fait, c'est surtout de cibler des personnes qui auraient des grosses lignes de titres cotées et qui n'y touchent pas parce que ces lignes de titres cotées, elles ont une énorme plus-value. Et en fait, ils veulent pas les vendre parce que ça déclenche la flat tax. Du coup, en fait, ils se restent scotchés avec ces lignes de titres qui dorment et ils n'en font rien. Donc, par exemple, ça peut être des valeurs comme Hermès, LVMH, des L'Oréal, vous voyez. Et il y a des, voilà, on voit des lignes de titres avec plus de 500% de plus-value qui ne bougent pas. Donc, moi, je leur dis à ces clients, en fait, c'est un peu comme, je prends l'image d'une cave à vin en leur disant, voilà, vous avez des grands crus dans votre cave à vin. Vous n'y touchez pas parce que ça coûte trop cher. Donc, vous n'en profitez pas. Vous les dégustez pas et en fait elles finissent par bouchonner. Donc c'est l'image de dire voilà, il faut que ces lignes de titres elles servent à quelque chose, donc donnez-les.
Quel est l'intérêt de donner des titres plutôt que du cash? Parce qu'on pourrait aussi donner de l'argent à une fondation via son compte courant ou que sais-je, via un chèque, un virement.
Tout à fait, mais là en fait il y a un mécanisme simple et très puissant, c'est que ça va permettre de gommer la plus-value. En fait, en réalité, le mécanisme il est triple, c'est-à-dire que l'intérêt il est d'abord qu'on gomme la plus-value. Donc pourquoi on gomme la plus-value? Tout simplement parce qu'en France, quand on fait une donation, on déclenche des droits de donation, on déclenche pas l'impôt sur la plus-value, et elle, la fondation, ne va pas non plus généralement payer d'impôt sur la plus-value compte tenu de son caractère d'intérêt général. Deuxième intérêt, on ne paye pas de droits de donation, parce que la fondation d'intérêt général, en général, n'en paye pas. C'est quelque chose, évidemment, à vérifier. Et troisième intérêt, on peut, le coup de grâce, c'est qu'on peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Donc, cette réduction d'impôt, elle est égale à 66% du montant donné, mais attention, elle est plafonnée. Et ce plafond, il est égal à 20% du revenu imposable soumis au barème progressif. Donc, le revenu imposable soumis au barème progressif, c'est généralement les salaires, les revenus fonciers, les BNC, les revenus de ce type. Donc, c'est hors flat tax. Donc attention, les gens qui ont des revenus constitués principalement par des plus-values et des dividendes, en fait, leur plafond va être tellement petit que la réduction d'impôt, finalement, va être assez faible.
Quelqu'un aujourd'hui qui serait intéressé, qui se dit tiens, ça serait sympa eh bien, de donner une argent à une fondation pour une cause qui m'intéresse, par exemple, quelle est la méthode à suivre? Comment procéder si on est convaincu par cette idée, par ce projet?
Alors, dans ces cas-là, en fait, le séquençage, il est ultra simple. C'est exactement comme quand on fait une donation à ses enfants de façon plus classique, entre guillemets, en gestion patrimoniale. Ça s'appelle une donation précession. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un, on va donner, nous, des titres à la fondation. Deux, la fondation va recevoir les titres, elle va les vendre dans la foulée. L'idée, c'est pas qu'elle les porte, hein, elle va les vendre dans la foulée.
Et elle peut pas les garder.
Elle peut les garder, il y a aucun souci, mais généralement, une fondation, elle a intérêt à faire de l'opérationnel et à soutenir, à financer ses projets d'intérêt général. Donc, in fine, elle vend les titres pour financer ses projets d'intérêt général. C'est ça le but.
Et donc, le réinvestir dans ses projets, dans ses causes. Alors, ça paraît simple comme ça sur le papier, mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Quelles sont les astuces à connaître?
Alors, on va d'abord être vigilant sur la nature des titres. En fait, on va vérifier qu'ils ne fassent pas l'objet de nantissement, par exemple, qu'ils ne soient pas issus non plus de management package, des choses comme ça, ou des montages, évidemment. Mais par ailleurs, il faut surtout privilégier des titres liquides qui soient pas trop volatile non plus, parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir des surprises. Bon, ça peut être à la hausse comme à la baisse, mais en fait, entre le moment où on va donner les titres et le moment où la fondation va les vendre, il peut y avoir évidemment des variations de cours. On parle de titres cotés. Donc ça, c'est les deux premières choses. Ensuite, évidemment, il faut quand même vérifier le process avec la fondation. Toutes les fondations ne sont pas outillées pour recevoir des titres cotés, même si ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, c'est assez méconnu. Il faut vraiment y penser. Et puis, dernier exemple, moi j'ai un client qui voulait donner ses titres Apple, par exemple, qu'il avait depuis longtemps avec une grosse plus-value. Il les avait en direct, bien sûr. Et puis il m'appelle en me disant, Pauline, je vais plutôt donner les titres Apple que j'ai dans ma holding. Je lui dis, oulala, attention, pas du tout. En fait, dans la holding, ça va pas. Le fait que la holding donne des titres, ça va pas permettre de gommer la plus-value. Donc, la holding peut très bien donner ses titres Apple, mais elle aura la réduction impôt sur les sociétés, ça il n'y a pas de sujet, mais ça ne permettra pas de gommer ses plus-values. Donc il faut privilégier de donner les titres qu'on a en direct, donc c'est en direct, hors PEA et hors assurance vie, hein. C'est vraiment des portefeuilles titres en direct.
Via un compte titre ordinaire.
Via un compte titre ordinaire, exactement.
Dans lequel il y a des actions, hein, vous avez pris typiquement le cas de l'action Apple, est-ce que ça peut être le cas de non-coté? Est-ce qu'on peut donner également via du non-coté?
Alors pourquoi pas, effectivement, on peut très bien donner du non-coté. Ça se fait de plus en plus, même si ça reste relativement rare, évidemment. Donc il y a deux façons de le faire. En fait, soit on donne du non-coté, donc c'est l'entrepreneur qui donne ses titres non-cotés juste avant la vente, c'est ce qu'on appelle aussi les donations précession. Donc il donne avant la vente, la fondation est au closing pour pouvoir vendre et elle peut financer ensuite ses projets d'intérêt général grâce aux produits de cession, tout simplement. Après, on voit aussi une nouvelle génération d'entrepreneurs, ça c'est une tendance, même si voilà, ça reste encore très 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 rare, mais c'est extraordinaire. C'est des clients, des entrepreneurs qui veulent dès le début donner des titres de leur fondation, de leur entreprise non cotée. Et ça perdure dans le temps, c'est-à-dire que la fondation va recevoir les dividendes et elle les vendra le jour, elle les vendra en même temps que l'entrepreneur, probablement, ou pas, en fait. C'est ce qu'on appelle le concept des fondations actionnaires.
Dans le cas que nous précisons depuis tout à l'heure, c'est bien sûr un cas dans son vivant, hein, ce n'est pas un leg, hein, avec donc un déclenchement de différents avantages fiscaux, même si on rappelle que ça ne gomme pas, bien sûr, le don. On ne gagne pas de l'argent en faisant des dons, même en passant par cette méthode, Pauline Soulas.
C'est ça. En fait, on peut tout à fait imaginer de pouvoir léguer des titres cotés. C'est complètement possible. Mais par contre, l'idée principale quand même qu'il faut retenir et qui est importante, que tout le monde ait à l'esprit, c'est que donner coûte toujours plus cher que de payer ses impôts. Hein. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas une réduction fiscale miracle. Le crédit d'impôt à plus de 100%, ça, on n'a pas encore inventé. Donc, donner coûte plus cher que de payer de ses impôts.
Merci beaucoup, Pauline Soulas, de nous avoir accompagnés ce matin pour nous parler donc de la philanthropie et pourquoi pas donner à des fondations à travers un compte-titre ordinaire. Je rappelle que vous êtes ingénieure patrimoniale et directrice générale déléguée de Feel Good Foundation. C'est une fondation qui est notamment opérée par Neuflize OBC. 9h38, tout de suite, on va parler des SCPI.
Tout pour investir. le placement à suivre.
Le placement à suivre avec les SCPI, notamment de différents acteurs, dont Remake qui nous accompagne ce matin, Remake Asset Management et David Setsik. Bonjour David Setsik.
Bonjour Étienne, vous allez bien?
Ça va, merci. Avec vous, on va parler des SCPI étrangères. Alors on rappelle, hein, les SCPI, c'est de la pierre papier. Hein, on investit à travers des sociétés, dont la vôtre, mais pas que, dans des biens, que ce soit des bureaux, du résidentiel, de la santé, etc. Quand on parle de SCPI étrangères, on parle de quoi? Ce sont des biens immobiliers qui ne sont pas en France, c'est ça?
Alors effectivement, les SCPI ne sont pas étrangères, restent des véhicules français, mais effectivement, depuis maintenant un certain nombre d'années, elles investissent davantage à l'étranger. Souvenons-nous, dans les OPCVM, il y a à peu près 50% de l'épargne des Français qui est investie hors de France, et en 2023, on était environ à 16% de stock sur les 90 milliards d'euros que représentent les SCPI. Pays qui étaient investis hors de France. Il se trouve qu'il y a eu une accélération depuis 2023 sur ce phénomène. Il y a de plus en plus d'investissements à l'étranger, principalement pour des raisons de marché, c'est-à-dire que les marchés étrangers, avec la remontée des taux, ont été plus attractifs que le marché français, et donc il y a un certain morceau d'épargne, près de 50% des flux chaque année, qui sont allés se greffer sur ces biens. Et puis, quel impact finalement pour le client final qui investit dans une SCPI et qui se retrouve à détenir des biens à l'étranger? Il ne vous aura pas échappé, Étienne, que depuis le 9 avril, la saison des étrennes est ouverte pour l'État français, puisque actuellement, il y a plusieurs dizaines de millions de ménages en France qui font leur déclaration de revenus. Je dis bien leur déclaration de revenus, pas leur déclaration d'impôt, puisque l'impôt, on choisit pas ce qu'on va payer. Donc on déclare ses revenus, et lorsqu'on déclare ses revenus, on déclare aussi les revenus d'origine étrangère et les revenus d'origine foncier.
Parce que pour éviter la double imposition, quand on a une SCPI qui a des biens à l'étranger, il faut le déclarer.
Absolument. Alors, vous avez un formulaire qui s'appelle le 2044, le CERFA. Alors, je ne vais pas faire trop de détails parce que je vous vois sourire d'ici et vous avez raison, la fiscalité, c'est compliqué, donc il ne faut pas rentrer dedans. Mais ceci dit, rappelons-nous quand même qu'il y a un principe. Il existe dans le monde des conventions de non-double imposition, des conventions fiscales entre les pays qui font que les gens ne sont pas taxés deux fois. Le principe, c'est que lorsqu'on a des revenus d'origine étrangère, les revenus qui vous sont versés en France ont déjà été fiscalisés à l'étranger, donc localement, et les revenus que vous touchez donc sont nets de fiscalité. Ils vont rentrer dans votre déclaration d'impôt. Je rentre pas dans le détail. Il y a deux méthodes, hein, crédit d'impôt et taux effectif. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas doublement imposé. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement pour l'épargnant final qui voit ses revenus d'origine étrangère, ses revenus fonciers d'origine étrangère arriver sur son compte? Mais il faut retenir que sur les revenus fonciers d'origine étrangère, on n'applique pas, à la différence des revenus français d'origine, des revenus fonciers d'origine française, de CSG-RDS. La CSG-RDS ne s'applique pas sur les revenus fonciers d'origine étrangère. Donc il y a une petite carotte fiscale, ça fait jamais de mal, mais on n'y va pas pour la fiscalité, évidemment, quand on investit à l'étranger.
Concrètement, si cet SCPI a investi en Allemagne, en Espagne, ça donne quoi en termes de fiscalité versus une SCPI qui a uniquement des biens en France?
Alors, comment ça fonctionne? Vous avez effectivement une SCPI lorsque vous avez des biens en France. La SCPI est un véhicule translucide fiscalement, c'est-à-dire que vous êtes imposé dans la quote-part de détention de revenus que vous détenez, c'est-à-dire que c'est imposé dans les mains de l'associé final. C'est pas le véhicule qui paye l'impôt, mais l'impôt est payé par le bénéficiaire final, donc l'investisseur, donc dans sa déclaration de revenus. Et effectivement, ces revenus d'origine foncière sont fiscalisés à votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire le barème le plus élevé, la tranche la plus élevée dans le barème que vous puissiez atteindre suivant votre niveau de revenu, auquel va s'ajouter la CSG-RDS. Dans d'autres pays, vous avez, généralement c'est la moyenne européenne, vous avez des retenues à la source de l'ordre de 25%, et donc à ces 25%, une fois que vous les avez payés, vous avez un petit frottement fiscal en France qui est lié à la méthodologie, mais on ne rentrera pas dans le détail, mais il y a un tout petit frottement, il y a un surplus d'impôt au-dessus de ces 25%, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des taux marginaux d'imposition assez élevés, le fait d'investir à l'étranger est plus avantageux pour un contribuable français.
Quelqu'un qui a la tranche de 30%, par exemple, ça peut être intéressant ou pas vraiment?
Si, pour quelqu'un qui est à la tranche de 30%, c'est intéressant parce que déjà, il ne sera pas taxé à la CSG-RDS. Donc il va faire cette économie qui est quand même subsidiaire.
Quelqu'un qui a des SCPI dans une assurance vie, est-ce qu'il peut optimiser ses revenus via ces pays étrangers, ou là on est encore dans un autre dispositif?
Là on rentre dans un autre dispositif, je peux pas parler pour le nom des assureurs, mais effectivement lorsque vous parlez aux assureurs, les assureurs n'étant pas soumis à l'IS ne peuvent pas récupérer le crédit d'impôt qui est lié en fait à cette imposition à l'étranger et donc ne la redistribue pas aux clients. On peut pas tout avoir, donc on bénéficie, mais par contre on bénéficie de la fiscalité du contrat d'assurance vie et surtout de la liquidité qui est associée aussi au contrat d'assurance vie. Donc, bon, on ne peut pas cumuler les effets positifs, malheureusement.
Il faut rappeler encore et toujours qu'un avantage fiscal, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ça ne doit pas être la condition d'un investissement. Quand aujourd'hui, on regarde par exemple la fiscalité de ces SCPI étrangères par rapport à des fiscalités françaises, ça donne quoi en termes de rendement, en termes de frais? Parce que c'est bien beau de payer moins d'impôts à la fin, mais si la rentabilité n'est pas là... C'est pas très utile.
Alors, vous avez raison. Le taux de distribution moyen de l'an dernier sur les SCPI était de l'ordre de 4,91%. Cependant, on voit qu'il y a une quinzaine même de SCPI qui dépassent largement ce taux, puisqu'elles sont rentrées au moment du nouveau cycle. Et on a plus de 15 SCPI aujourd'hui qui dépassent les 7% de taux de distribution, ce qui sont des revenus. Sur des taux, me semble-t-il, suffisamment attractifs. Attention, les SCPI communiquent toujours en taux brut de fiscalité. Dans la mesure où les revenus français sont bruts de fiscalité, puisqu'on a vu ensemble qu'effectivement les revenus français étaient fiscalisés dans les mains de l'investisseur final, eh bien, on neutralise la fiscalité à l'étranger pour calculer le taux de distribution sur revenus étrangers, pour pouvoir permettre de comparer les pays entre eux et la fiscalité. Donc, retenons que aujourd'hui, on arrive à avoir des taux de distribution de 7%. Attention, même si c'est attractif, il faut toujours se référer au document d'information commerciale, c'est-à-dire le document qui est lié à la commercialisation du produit, dans lequel on peut voir la performance long terme du produit, et c'est à ça qu'il faut retenir quand même, parce qu'on peut avoir effectivement des effets de bord à un instant T, des opportunités de marché, des effets d'aubaine qui vont doper la performance, ou des effets techniques qu'on a vu dans d'autres échanges. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est attachez-vous à regarder quand même le document d'information commerciale.
Mais quand on a un auditeur téléspectateur, on n'est pas expert de ces SCPI. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir une lecture, d'autant plus que c'est quand même un segment de marché qui a été très chahuté ces 4-5 dernières années, hein, notamment en ce qui concerne le bureau. On a quand même eu des parts qui se sont effondrées d'une façon impressionnante. Bon, comment aujourd'hui on se place dans ce marché de la SCPI quand on n'est pas investi, qu'on a envie d'y investir? C'est vrai que c'est plus facile, comme vous l'avez souligné, il y a des SCPI qui sont arrivés sur le marché dernièrement, qui n'ont pas subi la baisse des prix de l'immobilier.
Bien, ça nous rappelle à tous peut-être que déjà les arbres montent pas au ciel et que l'immobilier c'est cyclique. Et lorsqu'on est en investi, il faut tenir compte du market timing, c'est-à-dire ce moment de cycle qui nous est favorable et qui va nous protéger. Bon, intéressons-nous aux produits effectivement qui sont les plus récents aujourd'hui dans le marché, parce que ce sont les produits qui ont le moins de stock acheté sur le cycle précédent et donc qui vont permettre de délivrer une performance supérieure sur le plus long terme. Enfin, ça reste des produits complexes, vous l'avez souligné. Il est quand même mieux de se faire accompagner lorsqu'on investit dans ce type de produit qui doit s'inscrire dans une stratégie d'investissement et patrimonial global et non pas dans du trading de SCPI comme on peut le voir parfois. C'est de l'immobilier, on ne fait pas de trading sur l'immobilier.
Et c'est bien sûr de la diversification.
Évidemment.
Merci beaucoup David Sixième de nous avoir accompagné ce matin, cofondateur de Remake Asset Management, pour faire un focus sur les SCPI et donc leur fiscalité. 11h46, très courte pause, on se retrouve dans un instant puisqu'on va parler du marché du vin avec notamment un focus sur le coût d'envoi de la campagne des primeurs, notamment dans la région de Bordeaux.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Coffre-fort. Et donc, comme promis ce matin, on va parler du marché du vin avec Angélique de Linxin, directrice générale déléguée de Ideal Wine. Bonjour Angélique de Linxin.
Bonjour Étienne.
Merci
bonjour
de nous accompagner ce matin pour faire un petit focus sur le coût d'envoi de la campagne primeur. Alors, on rappelle, notamment dans la région de Bordeaux, puisqu'on va faire un focus sur Bordeaux, qu'il y a certains vignobles qui ont fait les vendanges l'année prochaine, qui là vont ouvrir leurs portes, ils vont faire déguster des vins qui, bien sûr, n'ont pas encore vieilli. Et donc, l'objectif, c'est de, pourquoi pas, acheter une bouteille en avance, si je fais simple.
Absolument. Oui, c'est un mécanisme qui existe depuis très longtemps, depuis le 18e siècle, le système consistant à acheter une récolte, entre guillemets, sur pied et à l'élever pour la vendre ensuite. Alors, ce système a été ouvert aux particuliers depuis le milieu des années 70. Il s'est vraiment développé et il consiste effectivement sur la récolte, la dernière récolte. Donc là, on parle de la récolte 2025. Les vins sont encore en cours d'élevage. depuis le début du mois d'avril, les grands dégustateurs, journalistes du monde entier et distributeurs sont venus à Bordeaux pour goûter ces vins, pour les découvrir. Ensuite, les notes vont être décernées. Les notes de dégustation vont être écrites et publiées. Et la campagne va démarrer. D'ailleurs, elle démarre là, en ce moment même, pour vendre donc ces vins. Et alors, il s'agit d'une réservation, c'est-à-dire que l'amateur commande ses vins. Ces vins sont encore en cours d'élevage. Ils ne vont lui être livrés qu'à l'issue de cette période de maturation, donc d'ici un an, deux ans, en fonction de la durée d'élevage des vins en question, qui peut être plus ou moins longue, plutôt plus longue quand il s'agit notamment de vins liquoreux.
C'est l'opportunité d'accéder à des vins qui sont très recherchés, un petit peu de les réserver. Hein. C'est un petit peu un carnet de commandes. On prend son ticket en quelque sorte.
C'est ça. En fait, il y a trois avantages. Le premier, c'est la garantie d'avoir ce vin quand il est rare. S'il est rare, ce qui n'est pas toujours le cas. 2025, on en reparlera, c'est plutôt rare. Vous êtes sûr, vous le commandez, vous êtes sûr de l'obtenir. Deuxième avantage, c'est le côté circuit court, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des multiples intermédiaires entre la propriété, le vin va quitter la propriété. Pour ceux qui l'achètent, notamment au travers d'Ideal Wine, le vin va arriver dans nos entrepôts et va être ensuite livré directement dans votre cave ou dans le lieu où vous cherchez à vous destiner à stocker les vins. Et puis, le troisième avantage, c'est un avantage de prix. Et c'est là-dessus que le système des primeurs a bâti son succès. C'est en fait, le vigneron octroie un tarif qui va être préférentiel, qui va lui permettre, en fait, au travers des ventes primeurs, de financer son stock de vin pendant toute la durée de l'élevage. Et théoriquement, c'est là-dessus aussi il peut y avoir parfois des ajustements un peu douloureux, le vin doit être moins cher à l'achat en primeur que ce que vous retrouverez une fois que le vin sera, entre guillemets, livrable, c'est-à-dire disponible en bouteille.
Il faut donner le paiement en intégralité ou c'est un acompte? Comment ça fonctionne habituellement dans ces campagnes de primeur?
Le particulier règle en intégralité, mais hors taxe.
Donc c'est quand même une avance.
Non, d'ailleurs, maintenant c'est TTC. C'était hors taxe jusqu'à il y a quelques années, mais maintenant c'est...
C'est une avance de trésorerie, il faut le savoir.
C'est une avance de trésorerie, d'où le système win-win qui doit consister à faire en sorte de dire j'achète ce vin et je vais le retrouver, il sera plus cher que ce que je l'ai payé en primeur une fois livrable.
Comme vous l'avez souligné, ce sont des vins qui sont pour l'instant jeunes. Donc c'est une certaine forme un petit peu de pari hein, sur Absolument. Le fait que ce vin va bien se comporter dans les 12-24 mois, voire bien plus. Comment on peut mettre toutes ses chances pour choisir les bons vins?
Oui, alors déjà, il y a des arguments importants à considérer. Le premier, c'est évidemment les caractéristiques du millésime qui sont importantes à considérer. Le deuxième, c'est ça va être la désirabilité du millésime qui va se mesurer, bien sûr, aux caractéristiques, mais aussi à ses notes et ses appréciations qui vont être données par la critique. Et puis, le troisième point, qui reste un argument crucial qu'on ne connaît pas encore bien, qui est celui du prix. J'ajoute que c'est aussi un achat un peu particulier, là, d'acheter en primeur. Ça nécessite une certaine forme de patience, parce que vous allez acheter des vins qui ne vont vous être livrés que d'ici, donc, comme je disais, un an et demi ou deux ans, et qui, s'agissant de Bordeaux, nécessiteront encore quelques années pour atteindre leur plein apogée et être vraiment à leur meilleure fenêtre de dégustation. Donc, ça nécessite une certaine patience, qui n'est pas forcément la caractéristique des consommateurs actuellement. Ça nécessite d'avoir une cave, d'avoir cette envie de constituer une belle collection et pourquoi pas de la transmettre un jour. Donc, il y a un caractère patrimonial qui vient dans cette émission, qui montre bien que l'achat en primeur peut-être, si on respecte vraiment bien certains critères, un excellent investissement plaisir.
Les premiers retours du terrain que vous avez, ça donne quoi là sur cette récolte 2025 dans la région de Bordeaux?
Oui, c'est une récolte alors qui a été soumise et vraiment j'adresse toutes mes pensées aux vignerons qui ont vécu encore un millésime qui a été très marqué par des aléas climatiques assez marqués, assez forts. Le printemps s'était déroulé de façon plutôt favorable pour l'éclosion de la vigne. Et ensuite, l'été a été beaucoup plus contrasté, avec notamment des épisodes de canicule extrêmement forts et extrêmement violents, notamment début août. Hein, il y a eu des certaines zones où il a pu faire jusqu'à 50 degrés. Alors, dans ce cas-là, que fait la vigne? Elle se place en mode survie. Elle se protège, quitte à sacrifier ses enfants, c'est-à-dire les raisins. Donc, la croissance des baies est stoppée. Et là, on fait tout pour préserver, la vigne se préserve. Donc ça a pu être, avoir pour conséquence des situations de ce qu'on appelle du stress hydrique qui peut être compliqué pour la vigne. Heureusement, en fin d'été, vous avez eu quelques pluies qui ont réhydraté un peu tout ça, qui ont redonné un petit peu de respiration. Et puis surtout, pendant la période des vendanges, il y a eu une très très belle fenêtre en termes de climat, très beau temps, qui a permis en fait aux vignerons d'avoir une zone de tir confortable. On n'a pas été obligé de vendanger en catastrophe parce que la pluie arrive. Donc là, les vignerons ont pu attendre le bon moment pour vendanger certains cépages, certaines parcelles. Et donc ça a été extrêmement favorable. La seule conséquence, c'est que de cette situation notamment de stress et de canicule, c'est que on a des baies qui sont restées très petites. Et donc, une récolte très qualitative, très concentrée, mais de petite taille. Hein. Si on prend une comparaison, pour vous donner un exemple, en 1970, on avait produit 75 millions d'hectolitres de vin. En 2025, les prévisions sont plutôt, je parle pour toute la France, hein, mais Bordeaux est concerné aussi, les prévisions sont à moins de la moitié, 35,9 millions d'hectolitres. Donc, on parle vraiment d'une petite récolte.
Une petite récolte, des quantités donc qui seront relativement faibles hein, pour certains domaines. Mmh. Il nous reste une minute. Est-ce que vous avez des coups de cœur peut-être à nous partager ou en tout cas des châteaux à suivre en ce moment?
Alors notre équipe a eu de nombreux coups de cœur, notamment dans des appellations comme celle de Pessac-Léognan, Margaux aussi, très joli vin. Et puis sur la rive droite, à Saint-Émilion, avec notamment des terroirs qui ont été des terroirs argileux qui ont eu cet effet d'éponge qui a permis de conserver la fraîcheur des vins. On a des vins, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a des vins qui présentent un très bel équilibre entre un fruit très gourmand et une structure qui font qu'ils sont taillés pour la garde. Et ça, c'est un argument en termes de placement vin qui est important parce que ce sont des vins qui vont pouvoir durer longtemps. Donc,
sachant que le but, ce n'est pas uniquement de faire un investissement, c'est aussi un achat à plaisir.
Absolument.
Pourquoi pas, Julien?
Absolument. Et les prix, le premier prix qui sort actuellement marque une stabilité du marché. Les amateurs sont là, ils sont derrière la porte, ils attendent. Sur Ideal Wine, on a beaucoup de personnes qui ont placé des alertes. Ça a augmenté 30% par rapport à l'année dernière. Donc, les amateurs sont là. Il faut aujourd'hui que les prix soient au rendez-vous pour que cette campagne soit un succès.
Ça commence à partir de quel prix?
Ça commence à moins de 20 euros et ça peut aller jusqu'à plusieurs
centaines de milliers d'euros.
Centaines d'euros, absolument.
Merci beaucoup, Angélique de Lingue 5, pour nous faire cet éclairage ce matin sur le marché des primeurs, notamment sur ce marché de Bordeaux. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de Ideal Wine. 11h56, dans 4 minutes, il sera 12h. Comme chaque jour, vous retrouvez bien sûr les experts de l'IMO avec Marie-Cœur de Roy. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette émission Tout pour investir en podcast, en replay sur bfmbusiness.com. Très bonne journée.
Tout pour investir sur BFM Business.